Bienvenue à Micro-Sillon,
des interviews fantastiques.
L'ambiance est bonne et le café est bon.
Ah ça c'est vrai, on est très bien reçu.
Bienvenue nouveaux compagnons,
de la musique, du documentaire, etc.
20 minutes écoute notre émission.
Attention.
Hommage spécial dédicace.
Micro-Sillon. Bienvenue à cette émission Best of Septembre 2020. Cette année aura eu lieu deux best-of pour qu'on se repose après la quarantaine qui aura causé beaucoup de stress à nos adhérents. Aujourd'hui, l'émission commencera avec par l'épisode 3 de Politiquesque, vote ou sanction. Puis on continuera par l'interview de Vincent de la Volta Job, le vent se lève. On aura une musique d'Olivier Serra pour la suite, Spirale, en deux moitiés avec une autre interview de Vincent dans les deux. Celle des She-Shapers. Ça forme des spirales dans les mers. Ensuite, on aura une troisième interview par Vincent et une grande, celle de Pat Kebra. Par la suite, si vous n'êtes pas dans la version libre de droit, vous aurez le bonheur d'écouter Buffalo Bill présenté par Clemente. Puis l'émission finira avec l'épisode 3 de l'individuel au collectif de Philippe Shark, Les Inégalités. Bonne écoute sur Micro-Sillon.
Mais qu'est-ce que c'est que la politique ?
C'est vrai ça, qu'est-ce que c'est la politique ?
Qu'est-ce que ? Politiquesque.
Épisode me. Vote ou sanction ?
Ça alors ? Bah zut ! Faudrait que je vote la prochaine fois. Mais pour qui ? Si je vote à droite, ils vont emmerder le monde. Si je vote à gauche, ils vont emmerder le monde. Et si je fais vote de sanction, alors si ça le part, de populistes vont être élus. Et ils vont emmerder encore plus le monde.
Eh oui, ignorant.
Ça me rappelle quand j'ai fait ma fille. Je l'ai faite pour qu'elle soit heureuse. Et vlan, ce soir, elle manifeste. Ah, mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là ?
Le vote est censé donner une impulsion à gauche ou à droite. Ainsi, un politique de gauche sera davantage critiqué qu'un politique de droite s'il fait des trucs de droite.
D'où les manifestations.
Eh ouais, tu vois, c'est la politique à deux vitesses. Les politiques ne vont dans le sens du peuple que quand le peuple leur gueule et leur court dessus une fois.
Au moins, notre constitution nous permet officiellement ce droit, ce qui a permis à notre démocratie de subsister et à notre peuple d'éviter la dictature. Mais notre démocratie...
Elle a des gros problèmes quand même. L'ascension fulgurante de Macron à la tête d'un parti datant de seulement quelques mois était très suspecte.
Ça, je peux le dire. Plutôt que de voter pour les autres candidats alors que les éléphants de gauche et de droite étaient entombés dans des affaires de corruption.
Tiens, salut Maëlys. T'as assez pour une conso ?
Oh oui, tiens. Un thé au long.
Ok.
Il y a eu aussi le grand appel de Chevènement et son parti de semi-extrême-gauche. Il aurait dû gagner, mais tout le monde a voté Macron.
Et pourtant... Hé, hey, qui a voté Macron ? Hein ? Levez la main. Tu vois, personne ici. Je connais personne qui ait voté Macron.
Comment est-ce que... Oh non, il n'aurait pas osé.
Je suspecte que si. Surtout avec le résultat des législatives. Malgré un total désaccord avec le peuple qui a voté massivement contre Macron, il a pratiquement eu la victoire au premier tour.
Plus on vote contre lui, plus il y a de votes.
En plus, Macron est unique dans le sens où, vu qu'il n'est officiellement situé nulle part, et qu'en plus il a la majorité à l'Assemblée, il peut faire ce qu'il veut et il est hors de contrôle.
Ouais, il peut faire passer n'importe quoi en 49-3. Il y a un problème dans la séparation des pouvoirs aussi.
49-3 ?
C'est un article de loi qui permet un vote direct de l'Assemblée. Si la proposition venant du président passe, elle passe. Mais si elle ne passe pas, alors le président démissionne.
Waouh ! Donc en clair, le président peut faire passer quelque chose rapidement. Au risque d'être viré ?
C'est l'intention.
Mais ça marche pas, comme tu vois.
Maintenant, les députés sont forcés d'obéir à la ligne de leur parti sous peine d'être virés. Donc les députés LREM, en majorité, sont obligés de suivre Macron.
Donc Macron a tous les pouvoirs.
Et il fait n'importe quoi.
Et donc, il y a les gilets jaunes là.
Quel est votre héros préféré?
C'est... L'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le
micro-sillon.
Combat.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent. Bonjour, donc suite à la prestation, j'allais dire au spectacle, mais vous voulez pas qu'on catalogue ça de spectacle, donc plus d'éducation populaire. Donc je vais vous laisser vous présenter, c'était la compagnie La Volte sur le Petit Procès.
Oui, alors moi c'est Mickaël, donc du collectif La Volte. On est un collectif qui faisait de l'éducation populaire, facilitateur, animateur, animatrice, facilitatrice. Et on cherche à chaque fois d'essayer de trouver des outils qui suscitent la participation, la controverse et le débat.
Bonjour Marie, et du coup on a proposé, présenté une forme qui était une première pour nous, c'était une expérimentation et donc c'était un petit procès populaire. Nous avons mis en accusation la libération sexuelle et jouer les débats et les la défense, l'accusation, les réquisitoires et plaidoiries. Et c'est un jury populaire tiré au sort qui a rendu la sentence.
Que pouvez-vous dire plus précisément sur ce festival auquel vous participez et la thématique qu'on vous a sûrement demandé d'évoquer, ou alors vous aviez déjà l'idée de faire sur la sexualité?
Alors non, la thématique, on a rejoint celle du festival. En fait, c'est plutôt que le collectif La Volte et les individus qui composent le collectif. Ça fait plusieurs années déjà qu'on participe à ce festival, puisque Festival d'éducation populaire, et c'est important pour nous d'en profiter pour s'entraîner, s'exercer sur différents outils. Donc les années précédentes, on a fait de la lecture collective. Et là, cette année, c'était le petit procès. Voilà.
Et la thématique a été discutée même, puisqu'on a fait une proposition. D'abord, on a fait une proposition de format. On a dit comment nous, on avait envie d'intervenir cette année dans le festival. On a fait plusieurs propositions, on a eu des retours du collectif Job qui nous a dit le petit procès ça nous intéresse. Donc nous on a dit ok, vu le thème autour des sexualités et de la liberté sexuelle et en parallèle avec la liberté dans la société, on avait d'abord proposé un petit procès du féminisme et on leur a donc proposé le thème et eux nous ont renvoyé qu'ils préféraient qu'on fasse un petit procès de la libération sexuelle. Voilà, donc ces choses-là se sont construites avec des va-et-vient de propositions, retour du collectif pour être sûr que nous, ça nous plaise la forme et le fond de notre intervention et que ça leur convienne à eux et que ça rentre bien dans la thématique du festival.
Vous avez collaboré avec des témoins qui étaient pour certains là quelques jours avant et vous avez mis en place cet événement. Et donc, que pouvez-vous en dire de la participation de ces témoins et des jurys aussi, mais qui ont été moins impliqués, mais quand même qui ont eu leur part
Ça a été beaucoup en question les témoins. On s'est questionné sur des experts, pas des experts. Nous, la place d'experts, c'est pas trop notre tasse de thé dans l'éducation populaire, mais dans un vrai procès, il y a des experts qui viennent à la barre. Donc on était un peu entre les deux. On a appelé des amis, des complices qui connaissaient le thème mieux que nous. Nous, on maîtrise surtout les formes et on expérimente des formats d'intervention et des outils, mais on n'est pas spécialiste de toutes les thématiques. Donc là, on a d'abord contacté des personnes qui, elles, maîtrisaient mieux la thématique et qui sont devenues, pour certaines, témoins. Il y a eu aussi une personne centrale qui était stagiaire dans notre collectif, qui, elle, a porté la dynamique de construire un déroulé, proposer des répétitions, chercher quels étaient les chefs d'inculpation, et structurer un peu les choses et rechercher des témoins, comme dans un procès classique.
Par rapport sur les objets ou les supports que vous avez utilisés, comme les publicités détournées ou certaines toutes réelles, que pouvez-vous en dire?
C'était un travail de recherche qui n'a pas été le plus difficile. En fait, c'était surtout quelques outils de manière à pouvoir créer un peu d'ambiance avec le public, un peu d'interaction. Voilà, une fois de plus, parce que n'étant pas témoin, on s'est aussi basé sur tout ce qu'on pouvait trouver de présent dans la société et tout ce qui pour nous faisait sens. Voilà, et ça nous a aidé un petit peu à construire notre argumentaire.
Après, il y avait une recherche aussi d'alterner dans tout ce qu'on fait. On cherche un peu le rythme. Et une des façons de créer du rythme, c'est d'alterner des témoignages filmés, enfin visuels ou auditifs. Mais voilà, je pense que s'il n'y avait eu que du discours tout au long sans support visuel ou sans passer le petit bout de clip, ou ça aurait été un peu plus lassant pour tout le monde. Donc voilà, c'était aussi une recherche dans ce format-là, comme dans tous les formats qu'on anime, d'une alternance de support.
Pour revenir un peu plus sur l'éducation populaire, c'est quelque chose qui se développe, mais qui n'est pas encore connu forcément du grand public. Que pouvez-vous en dire ?
Bon, je ne sais pas si elle se développe. L'éducation populaire date un peu. Nous, on la
revient.
Voilà, nous, on dit plutôt qu'on la remet au goût du jour, parce que bon nombre de supports d'intervention, de ce que nous appelons des outils ou des formats, n'ont pas été inventés récemment. Ils datent un peu et ils n'ont pas été inventés par nous. Ils ont été inventés par d'autres collectifs, d'autres mouvements militants. Voilà, donc c'est un mouvement qui est bien plus ancien. Et après, nous, notre démarche, c'est plutôt celle-là. C'est de la remettre au goût du jour et d'expérimenter à l'intérieur de tout ce qui a déjà été fait, comment aujourd'hui, nous, on peut aussi développer, enrichir et expérimenter cette éducation populaire qu'on nomme quand même politique à la Volt.
Pas mieux, non. Après, nous, on essaie de partager les outils, on essaye de travailler avec d'autres collectifs, on essaye d'échanger sur des festivals comme aujourd'hui. Voilà, c'est plus ça, effectivement, le mouvement, c'est un mouvement d'échange et de partage. En tout cas, nous, c'est ça qui nous anime, et puis d'expérimentation.
Après, on peut vous parler un peu de la posture globale. On part d'un savoir ascendant et pas d'un savoir descendant. On part plutôt de l'expérience des gens pour en avoir une analyse des expériences collectives, des expériences individuelles qui sont partagées collectivement et qui nous permettent d'avoir une analyse de phénomènes ou de positionnements, de mécanismes qu'on vient ensuite éclairer par de la théorie. Et ensuite, nous, on a mis en place ce qu'on appelle des principes d'intervention qui vont plutôt prôner l'horizontalité, qui vont être après avec un cadre de sécurité, de non-jugement, voilà, donc des postures, de la posture de facilitation.
D'accord. Une dernière question, après je vais vous laisser, par rapport au retour, que là c'est la première, donc vous n'avez pas encore eu de retour, ou alors tout frais, mais est-ce que vous avez pensé à montrer cette mise en scène, voilà, à des personnes qui travaillent dans le domaine judiciaire, ou de la sexualité, ou enfin de l'administratif, non, des institutions?
En fait, on s'est posé la question, l'idée c'est qu'il n'y ait pas de captation, c'est l'instant du moment, en fait, pour nous c'est ça aussi l'expérimentation, les outils qu'on utilise, on le fait avec l'énergie du moment, les gens qui sont là à ce moment-là. Par contre, de partager l'outil après, peut-être, mais ce qui en a été fait là aujourd'hui, c'était nous, la salle, les témoins qui étaient présents, et l'idée c'est de pas diffuser, c'est d'en rester là, quoi. Et ça nous va très bien, je pense.
Et dans la posture, il y a quand même une démarche d'être au service d'eux, donc là nous étions au service du festival et au service de la thématique du festival, et en fait on ne retrouvera jamais un autre environnement dans lequel on pourra être au service de la même chose, donc on ne reproduira jamais deux fois la même, enfin jamais, je ne faut pas dire jamais, mais a priori on ne reproduit pas deux fois la même chose. Donc on fera peut-être d'autres petits procès populaires, mais sur une thématique différente, dans un événement différent, et qui auront forcément une forme différente, puisqu'on va tirer aussi leçon de cette première expérience, et donc modifier des choses.
Ok, ben merci. Un site internet peut-être à ajouter, ou quelque chose ?
Oui, un site internet dans lequel il y a plein de ressources. En plus, vous pouvez aller piocher pour insuffler de l'éducation populaire et des outils dans vos collectifs. C'est www.collectif-lavolt.org.
Mais au plaisir, bonne continuation.
Merci beaucoup.
Merci. Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Micro-sillon. une techno.
Bonjour et bienvenue sur l'émission de l'association Micro-Sillon, devenue groupe d'entraide mutuelle. C'est Vincent, reporter, qui vous présente une interview de Sea Shepherd France lors du salon Vivre Bio-Nature au Parc des Expositions de Toulouse, dans le 31. Donc bonjour, nous voici dans le cadre du salon Vivre Nature avec la participation d'une ONG, Sea Shepherd. Donc je vais les laisser se présenter.
Bonjour, Aude, bénévole au groupe local de Sea Shepherd Perpignan.
Et bonjour, Elodie, toulousaine et bénévole au groupe local de Sea Shepherd Perpignan également.
Depuis quand êtes-vous participant sur ce salon et est-ce qu'il a évolué depuis le temps ?
Alors, c'est la première année qu'on est sur le salon. Donc je ne peux pas vous parler de l'évolution du salon.
Parce que c'est important de le préciser. Donc j'ai contacté Chantal, l'organisatrice du salon. Je lui ai présenté l'association, je lui ai expliqué un petit peu ce qu'on faisait. Et nous, on est tous bénévoles en fait au sein de cette association. Donc on ne fonctionne que grâce à la participation des dons que nous font les gens. Pour nous, c'est important de ne pas utiliser cet argent pour tenir un stand. Donc on lui a demandé si on pouvait avoir un prix ou autre et elle nous a offert le stand. Donc c'est, ouais, c'est important de le préciser, elle a eu cette générosité. Merci Madame Malherbe, ouais, grande générosité, merci beaucoup.
Depuis quand êtes-vous dans ce domaine d'activité et qu'est-ce qui vous a amené dans le milieu de l'écologie, du sauvetage par rapport aux animaux marins voilà.
Alors déjà pour vous présenter rapidement Sea Shepherd, c'est une ONG internationale qui a 40 ans, en fait là cette année, enfin qui a fait en 2017. Donc c'est ONG internationale pour la protection de la biodiversité marine à travers le monde. Et moi, ce qui m'a attirée dans cette ONG, c'était son investissement, ses actions qui vont au-delà des simples discours qu'on peut parfois avoir, des gens qui pointent des problèmes mais qui n'apportent pas forcément de solutions. Donc là, c'était le fait de vraiment pouvoir agir concrètement pour une cause qui m'était chère. Voilà.
C'est un peu les mêmes raisons, hein. L'action directe et puis après la partie un peu, tout ce qui est faune marine qui est un peu délaissée. Les poissons, c'est un peu les oubliés de la cause animale, donc c'est un peu principalement pour ça que je rejoins.
Qu'est-ce que le bio pour vous de nos jours ?
On va dire qu'il y a bio et bio. Aujourd'hui, c'est un peu un argument marketing. Après, à la base, l'agriculture biologique en soi est bonne, je pense, pour l'environnement. Après, je pense qu'il y en a qui en abusent, vu l'argent que ça rapporte. Voilà.
C'est oui, le bio. Bah là, ils ont revu le cahier des charges du bio à Bruxelles. Donc, on en fait de plus en plus. Les gros lobbies commencent à s'y mettre. C'est vrai qu'au niveau des critères du bio, ça commence à devenir assez compliqué quand on s'y intéresse. Ouais, et quand on essaie vraiment de s'intéresser à ça, c'est pas très très clair. Quand on essaie de lire le cahier des charges du bio en Union européenne, bah on est vite largué comme pour beaucoup de choses. Donc il faut trier. Il y a bio et il y a, je pense, petits producteurs locaux et qui parfois n'ont pas l'appellation bio, mais font des bons produits aussi. Faut pas jurer peut-être que par le bio, mais après ça c'est un avis vraiment très personnel. Mais ici par contre on a des, enfin sur ce salon en tout cas il y a des exposants qui sont justement assez sensibles à cette problématique et qui sont eux dans le bio depuis très très longtemps avant cette nouvelle mode qui est en train d'arriver et qui eux font la différence entre vraiment bio marketing et bio voilà.
Par rapport à ça, le terme est banalisé et utilisé à toutes les sauces bio maintenant de nos jours.
C'est ça, c'est qu'aujourd'hui tout est bio. On a l'impression plus que, enfin, on se perd complètement dans le bio quand on va dans une grande surface. Bon, je vais pas citer de marque, hein, mais quand on va dans des grandes surfaces, c'est en effet ce qu'on disait là, le bio low cost, les conditions du bio en Espagne qui sont assez déplorables. Enfin voilà. Après, je sais pas toi ce que t'en penses.
Oui, ouais, c'est le même délire. Ouais. Après, en soi, la logique veut qu'il y a pas, au jour d'aujourd'hui, il y a pas assez de production pour alimenter la demande. Donc, ça pousse notamment les grandes enseignes à faire du bio un peu low cost.
Mais si vous avez quelque chose à rajouter, une promo, une explication par rapport à votre campagne peut-être du moment que vous auriez.
Bah, donc s'il y a des personnes intéressées pour venir découvrir nos actions locales, on fait une locale, nationale et internationale, donc on est là pour en discuter. On est là pour parler de ce qui se passe en ce moment sur les côtes atlantiques en France avec donc les dauphins qu'on retrouve échoués, complètement mutilés suite aux prises accessoires dans les filets de pêche. Donc on est là pour discuter de ça. On est également ici pour parler de ce qui se passe à Mayotte Mayotte actuellement avec une mission Nyamba qu'on fait pour la préservation des tortues, sur laquelle on ne peut plus vraiment se rendre parce qu'il y a un mouvement social sur l'île qui empêche complètement l'accès, en fait, on ne peut pas aller. Donc on est là pour parler un petit peu de tout ce qui se passe en ce moment, des missions actuelles, de répondre aux interrogations un peu curieuses qu'ont les gens parfois, qui voient Sea Shepherd comme quelque chose d'un peu fermé, sectaire, et on est là pour montrer que bah non, c'est une ONG qui est très ouverte d'esprit. Et qu'on n'a pas de tabou, donc vraiment, on invite les gens à venir nous rencontrer.
Je pense qu'elle a tout dit, hein, qu'on en sait, ouais.
Bon, ouais, mais merci de votre participation.
Merci à vous.
De rien, au plaisir et à la prochaine peut-être. Hein.
Voilà. Avec plaisir, ouais. Merci.
Vous venez d'entendre l'interview de l'ONG Sea Shepherd par Vincent Galzin de Micro-Sillon.
Nous avons des preuves formelles. Des extraterrestres habitent sur une autre planète.
Le micro-sillon.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent. Donc bonjour, je suis avec une des personnes qui aura participé à ce festival au bikini. Donc je vais le laisser se présenter, c'est mieux lui que moi. Hein.
Alors moi je m'appelle Pat Kebra. Voilà, je suis venu parce que j'ai été invité par Yo des Brassens Not Dead et qui aimait beaucoup mon ancien groupe qui s'appelait Oberkampf. Et donc je suis venu présenter mon album qui est sorti en 2015. J'ai joué quelques chansons et puis quelques chansons d'Oberkampf également et refait un concert.
Vous soutenez les Kurtz par rapport un peu à enfin, leur label
Oui, voilà. J'ai beaucoup soutenu les Kurtz dans le sens où je leur ai fait leur promo. Je fais de la promo pour des groupes indépendants et j'ai fait amicalement la promo des Kurtz pour leurs deux singles et qui sont passés sur énormément de radios.
Depuis quand faites-vous de la musique et comment vous est venue cette passion? J'ai pu voir un extrait sur une émission télé où vous êtes du Club Dorothée. Enfin, je ne me rappelle plus le présentateur du Club Dorothée. Où vous avez fait
oui,
une émission.
Jackie.
Voilà, avec Jackie, c'est
tout
ça
fait. Oui, oui bon, Jackie, je le connais des années 80. Parce que moi, en fait, j'ai commencé la musique en 76. Et j'étais un fan des Stooges, des New York Dolls, des groupes américains assez décadents. Et le punk est arrivé avec les Pistols, les Clash, les Heartbreakers, les Damned. Et j'ai monté mon groupe qui s'appelait Oberkampf. Et on était parmi les seuls punks français de la période fin 70, début 80. Parce que cette musique-là n'était pas du tout appréciée en France à ce moment-là. Elle a été appréciée un peu plus tard, en 86, 87, avec la période alternative. Mais nous, à notre époque, on était considérés, qu'on est assez méprisés. Donc on a arrêté, épuisé en 85, après 7 ans d'activité. On a fait quelques disques. C'était très très difficile d'enregistrer et de sortir des disques. C'était réservé un peu à une élite. Mais nous, on s'autoproduisait. On avait un peu l'esprit du it-yourself, qui est un peu mis à la mode maintenant. Mais de tout faire par nous-mêmes, puisque personne ne voulait de nous. C'était pas par vocation, c'était un peu par nécessité pour survivre.
Par rapport à la musique ou le punk rock, ça vous intéresse depuis combien de temps et comment vous est venue cette passion?
Alors le punk rock n'était pas de la musique, c'était de l'anti-musique. C'était une passion plutôt sauvage, c'était plutôt une expression vitale d'exprimer notre révolte et notre agressivité, parce qu'on avait beaucoup de violence en nous, et d'exprimer notre malaise par rapport à la société des hippies de fin 70, qui étaient gouvernés un peu par les hippies, qui s'étaient un peu recyclés, qui avaient oublié leurs rêves de jeunesse. Et donc nous, le punk est arrivé à ce moment-là, et c'était de l'anti-musique, c'est-à-dire que les gens montaient sur scène sans avoir peut-être même pas une semaine d'instruments. Mais il y avait un public qui petit à petit est devenu énorme en Angleterre pour ce genre de musique. Nous en France, on a capté cette énergie, mais on n'a pas eu le public ni l'infrastructure pour pouvoir travailler professionnellement. Donc c'est resté de l'anti-musique jusqu'à la fin de mon groupe. Quand on s'est arrêté, j'aurais jamais pensé que le mot punk soit un jour sur un mur. Et quand on s'est arrêté, c'était vraiment l'histoire était vraiment pliée. Le punk n'existait plus. En Angleterre, les gens étaient passés à des musiques de New Wave, t'avais les Cure, t'as eu aussi les Stray Cats, t'as eu le ska qui est arrivé. Il y a eu beaucoup de courants qui ont explosé grâce au punk qui a vraiment créé un chaos complet dans la musique en 77. Et donc qui a permis à des tas de musiques d'arriver, d'émerger. Ça a été un détonateur, le punk. Donc on ne peut pas considérer ça comme une musique. Ça a été une mode, ça a été une mode vestimentaire, mais qui n'était pas superficielle, qui était reliée. Les gens qui s'habillaient comme ça, ils vivaient comme ça tous les jours. C'était du social, c'était un engagement social. Et les gens vivaient vraiment leurs textes pour ceux qui faisaient de la musique. Ce n'était pas des chansons en fait. On exprimait ce qu'on vivait au quotidien dans nos chansons, quoi, dans notre musique, quoi. On peut appeler comme ça, mais c'était vraiment, si on peut synthétiser le punk, c'était être contre tout.
De la rébellion.
C'était de la rébellion complète.
Revendiquer des choses, des engagements, tout et rien.
Voilà, tout et rien, mais être contre. Voilà, vouloir faire sauter la société, c'était le but de tout punk, quoi. C'était un refus complet de s'intégrer dans un monde matériel, parce que les années 80 étaient quand même un monde très matérialiste. Et il faut resituer le contexte, c'était les années Thatcher, c'était les années où il y avait la présence d'un monde très matérialiste, où il n'y avait pas d'idéal pour la jeunesse. Et c'est pour ça que le punk, le slogan du punk, c'était nos futurs. Mais pas par vocation pour dire, c'est par provocation, oui.
Ou antisocial.
C'était antisocial. On n'a pas d'avenir dans cette société-là. On en veut une autre. Donc nous, on s'est intégré dans ce mouvement-là et voilà, on a été sincères jusqu'au bout. Et après, on était épuisés, on s'est arrêtés. Et il y a eu une explosion en France avec d'autres groupes comme les Berruriers, comme les Wampas, comme des groupes, eux, qui ont vendu beaucoup d'albums. Mais pas nous. Et tant mieux, parce que moi, du coup, ça m'a permis de passer à autre chose. J'ai eu une vie de famille, j'ai eu un métier, j'ai changé de vie. Et beaucoup de gens que j'ai connus à cette époque-là sont décédés.
Par rapport à vos partenaires, les gens qui vous suivent, qui vous soutiennent, quels sont-ils ?
Moi, j'ai personne qui me soutient. D'ailleurs, c'est mon avant-dernier concert, puisque, en fait, j'ai été invité. Et il se trouve qu'avec mon groupe Oberkampf, j'ai arrêté en 85 et mon avant-dernier concert, je l'ai fait au bikini. Donc c'était quasiment un concert d'adieu. Et là, mon avant-dernier concert, je l'ai fait ce soir. Donc je fais mon dernier demain. Voilà, j'ai pas l'intention de continuer dans ce milieu parce que tout ce que j'ai fait depuis 10 ans, j'ai refait beaucoup d'albums. Quoi. J'ai fait 3 albums en 5 ans, donc ça, c'est quand même assez intensif. Avec 130 concerts aux quatre coins de la France, etc. Mais les gens attendaient mon ancien groupe qui, lui, à son époque, n'était pas reconnu. Donc c'est un cycle un peu infernal où je ne suis pas dans le timing. Alors avec Oberkampf, on était des losers. On était en retard sur la vague anglaise et en même temps en avance sur la vague française qui n'existait pas encore. Là, j'ai fait des albums parce que je considère que le rock, c'est l'authenticité. C'est exprimer des choses qu'on ressent. C'est pas faire des chansons comme au bal du samedi soir. C'est faire des chansons avec un message dedans. Et donc j'ai fait ça et en fait j'ai eu 30-40 personnes à mes concerts. C'était énorme, on a fait des super concerts. Mais je me suis dit, je peux pas continuer à faire ça pendant 20 ans parce que à 58 ans, je vais avoir 58 ans. Si je fais ça, dans 5 ans, je suis mort. Je suis passé à côté de quelque chose. Je pense que j'ai fait 3 super albums qui n'ont pas eu d'écho. Et j'accepte entièrement que les gens ne s'intéressent pas à ce que je fais parce que la musique, c'est être dans l'air du temps, en quelque sorte. Être avant-gardiste, moi, j'aime bien être avant-gardiste. Donc, je me dis, j'étais avant-gardiste avec Oberkampf. Maintenant, les gens connaissent nos chansons alors qu'à l'époque, on ne les connaissait pas. Bah, peut-être que dans 10 ans, on connaîtra mes chansons, mais pour moi, c'est trop tard. Je ne vais pas persévérer pour attendre 10 ans que les gens aient envie que je joue parce que moi, je serais déjà passé à autre chose. Je préfère mettre un terme et passer à autre chose.
Prenez votre retraite dans le chant,
non,
dans la musique.
Non, ce n'est pas une retraite, c'est un arrêt. Non, parce que moi, retraite, ce serait de me reposer, d'aller me reposer. J'ai pas envie de me reposer. Mais je vais mettre mon énergie dans des choses plus constructives qui peuvent servir à d'autres. Parce que là, ce que je fais n'intéresse pas. Donc, pourquoi continuer à dépenser autant d'énergie si les gens n'ont pas envie de venir massivement à un de mes concerts ou d'acheter massivement mes CD? Donc, je constate sans amertume qu'il est temps pour moi de clôturer pour pouvoir passer à quelque chose d'autre dans ma vie et de mettre mon énergie ailleurs. Je ne sais pas encore où, mais je vais la mettre ailleurs parce que j'ai encore beaucoup d'énergie.
Faire une reconversion dans le social, peut-être, non ?
Peut-être, pourquoi pas. Moi, quand je pense à des choses comme ça, je pense plus à l'écologie parce que c'est quelque chose qui me touche. On est sur une planète qui est très belle, qui a été très belle, qu'on a tamé largement ses ressources. Je suis beaucoup d'astrophysiciens comme Trinh Xuan Tuan ou Hubert Reeves qui m'ont inspiré plusieurs chansons. Et ça, c'est une cause qui est vraiment importante parce que en essayant de trouver la place de l'être humain sur Terre, en essayant de faire comprendre que la planète est limitée par ses ressources et que peut-être dans 20 ans ou 30 ans, on pourra plus y vivre, c'est pas la nature qui va mourir, c'est pas la Terre qui va mourir parce que la Terre va continuer à tourner, c'est l'être humain qui va disparaître parce qu'on n'aura plus d'air à respirer et plus d'eau à boire. Je pense qu'on a encore la capacité de réagir et de s'adapter à ce qui reste. On ne pourra pas recréer ce qui a disparu. Mais par contre, on peut s'adapter encore à ce qui reste en réduisant notre consommation et en respectant notre environnement. Après, les solutions, on peut les trouver. L'être humain est assez intelligent pour trouver des solutions. Mais il est assez con pour tout détruire avant de comprendre. Donc, ça, c'est un thème qui me touche. Et je trouve que c'est plus important que d'aller faire des concerts devant 30 personnes et de chanter des chansons qui intéressent personne. Mes chansons sur l'écologie, elles n'ont pas eu d'impact qu'un organisme comme Greenpeace peut avoir quand il va dans une centrale nucléaire tout bloqué. Donc mon énergie, j'ai envie de la mettre dans quelque chose de constructif, je ne sais pas encore quoi. Mais en tout cas, la musique comme je l'ai fait là ne me correspond plus. Voilà, elle est peut-être trop horizontale, j'ai besoin de m'élever un peu au-dessus de... Le rock n'est plus ma musique en fait, je crois que c'est ça. Le rock c'est une musique de contestation et je suis plus contestataire en fait. Le rock c'est être contre. Et maintenant je m'inscris plus dans une logique d'être pour une idée et pour une cause et de la défendre. Donc c'est pas être contestataire, c'est donner un avis peut-être négatif sur certains fonctionnements, mais apporter une idée. Alors que dans le rock, on n'amène pas d'idée, on veut tout raser. Moi, avec 3 enfants, j'ai pas envie de raser la planète. À 18 ans, à 20 ans, je voulais faire sauter la Terre entière. Donc je m'inscris plus dans cette logique-là. Mon message, de aussi bien dans Robert Kampf que dans mes 10 dernières années de musique, c'est d'être authentique. La musique, c'est pas une mode, c'est pas juste faire des notes et chanter des textes, c'est exprimer des idées.
Merci de votre participation, de ce beau discours. Et si vous avez quelque chose à rajouter, même si vous arrivez en fin de...
En fin de parcours.
Si vous avez un site, peut-être pour les gens qui ne vous connaîtraient pas forcément,
oui,
ou qui seraient intéressés.
Ouais. Oui, www.patkebra.com. J'ai tous mes albums qui sont répertoriés, mon histoire, ma biographie. Les gens peuvent aller voir ce que je fais. Mais à la limite, si personne... Tu vois, je ne fais aucune pub. C'est quelque chose qui me désintéresse complètement maintenant. J'ai plus ce besoin de reconnaissance que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. J'ai un peu tourné cette page-là et j'ai envie de rentrer dans une vie plus intérieure. Ce que je fais depuis quelques années. Et déjà, d'essayer de modifier les autres, déjà de me modifier moi-même. Sur des choses concrètes, par exemple, au niveau de ma consommation de plastique, j'ai réduit ma consommation par 5 en quelques mois. Donc je veux dire que si chacun prend conscience de ça, notre consommation et nos déchets vont diminuer très fortement. Mais il faut en prendre conscience. Donc à chacun de prendre conscience de ça. Et je pense que sur les 8 ou 9 milliards d'êtres humains qu'on est, si chacun fait un effort sur lui-même pour consommer moins, être plus respectueux de l'environnement, déjà on va voir un effet très rapidement. Donc c'est ça pour moi l'enjeu de demain, c'est pas de faire des chansons ni de... Alors je sais pas comment je pourrais exprimer ça, mais en arrêtant tout ce qui ne correspond plus, je vais me diriger à un moment donné vers ce qui me correspond et retrouver une nouvelle énergie, un nouveau sens à ma vie. C'est ce que je vais rechercher.
Merci encore.
De rien.
Bonne continuation et au plaisir peut-être.
Des interviews diverses et variées.
De l'envoyé spatial. Voilà, reportage 31.
Vincent.
Écrire, flâner, découvrir, parler, se refléter. Échanger, micro-sillon sur le web.
De l'individuel au collectif, par Philippe Shark. Bienvenue à l'épisode numéro 3, les inégalités. Le fossé entre les privilégiés et les plus démunis se creuse et cela devient inacceptable. Beaucoup de sans-domicile fixe font la manche et lorsque je les vois, je me sens gêné. Nous vivons l'époque du progrès, mais la science ne fait pas le tout. À l'heure de la très haute technologie, au moment présent, la société regresse dans le social. La situation devient impossible et les mouvements sociaux se multiplient et les transports toulousains sont impactés. De ce fait, les usagers sont exténués et l'atmosphère devient impossible. Du temps de ma maman, en 1995, j'ai appris qu'il est plus facile d'être pauvre que d'être riche. Et en France, le peuple a été gâté et s'est senti gêné par la baisse du pouvoir d'achat. C'est parce qu'il y a beaucoup plus de pauvreté en général. Les gouvernements sont différents, mais leurs politiques sont sensiblement les mêmes. La privatisation des services publics sont à l'ordre du jour, mais n'arrange pas la situation car cela fait augmenter les inégalités. Au moment présent, il y a un mouvement social dont on ne voit pas la fin. Concernant les réformes des retraites, les gilets jaunes, c'est un mouvement en pointillés qui dure. Emmanuel Macron ne veut rien savoir. Il va falloir manifester rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris et devant le porche du Palais d'Élysée. Une manifestation interdite, c'est par le nombre de militants que l'on pourrait renverser le gouvernement et faut-il savoir jusqu'où cela pourrait aller.
Merci beaucoup Philippe pour ce texte très engagé, on peut le dire, et vraiment beaucoup dans l'actualité. Alors moi j'avais une première question, qu'est-ce que vous pensez de la suite du mouvement? Comment ça va se passer, vous avez l'impression, dans les jours, les mois qui viennent?
J'ai l'impression que ça serait plutôt parler à un mur, manifester dans les rues de Toulouse, un comité réduit de nombre de militants, de manifestations.
Qu'il n'y a pas assez de manifestants, c'est ça?
J'ai l'impression qu'il n'en a pas assez.
D'accord.
Et j'ai l'impression que c'est trop dispersé dans la France entière. C'est pas du tout comme si ça devrait être regroupé sur la capitale, aux abords du président.
D'accord. À votre avis, il faudrait qu'il y ait tous les manifestants qui soient à Paris réunis, c'est ça?
Oui, j'ai pensé à ça.
D'accord, oui. Et moi, je me demandais, est-ce que vous voyez, du coup, par rapport à ce nombre de personnes, et au niveau des stratégies, est-ce qu'il y a une différence pour vous entre les manifestations syndicales contre la réforme des retraites et ceux des Gilets jaunes, où vous ne voyez pas de différence?
Je ne vois pas beaucoup de différence. Tous les samedis, ça recommence, et tous les samedis, les bus de l'agglomération toulousaine sont déviés du centre-ville. Mmh.
Et ça, qu'est-ce que vous en pensez alors de ces déviations des bus en général?
Que c'était normal pendant une grande période et à un moment donné, quand ça va vraiment loin, on en a plus cassé.
D'accord, les usagers des bus en ont plus cassé.
Les conducteurs de bus sont exténués du fait de devoir faire comme ça.
Et vous pensez que ce serait aux manifestants d'arrêter ou à Macron d'arrêter sa politique ou ce serait aux manifestants d'arrêter de manifester?
À un moment donné, ça serait aux manifestants de s'arrêter.
D'accord.
Bon gré, mal gré. Ils ont persévéré, mais la persévérance n'est pas sans limite, à un moment donné.
D'accord. Mais du coup, malheureusement, ça donnerait raison à la politique d'Emmanuel Macron.
Ça ne changerait pas grand-chose de persister, de persévérer par cette voie, de cette manière. D'accord. De renouveler les manifestants des Gilets jaunes tous les samedis. Dans les rues de la Ville Rose.
Donc encore une fois, il faudrait plutôt une grosse manifestation à Paris qui perdurera pas les bus à Toulouse.
Oui, il y en a eu des grosses manifestations sur Paris. Vois comment ça s'est soldé à la fin de l'année 2018. Il y a même eu des soulèvements, des émeutes. Mmh. Et la police était débordée même. Mmh. Il y avait les casseurs, c'était pas forcément les manifestants militants, pacifiques. C'était surtout les casseurs qui profitaient.
Et alors, est-ce que vous pensez que les manifestants, ils essayent de lutter pour qu'il y ait moins d'inégalités et que Macron, il fait une politique où il y a plus d'inégalités, pour revenir au titre de votre chronique?
S'il ne veut rien entendre, ça ne dépend pas de nous. On a raison de faire comme il souhaite. Quand on est à la tête d'un État, quand on est président de la République, à un moment donné, il faut faire des concessions aussi.
Ouais.
Parce que le président de la République, c'est pas du tout comme le dictateur, un chef d'État qui soit totalitaire. Parce que le président de la République doit tenir compte, parce qu'il y a les ministres, le gouvernement, ça, le Sénat, qui décide par l'Assemblée nationale. Quand tu veux promulguer des lois, ou ça passe ou ça ne passe pas. C'est pas obligé que ça passe. Que ça soit appliqué, les lois, de faire sortir. Quand on parle de réforme de retraite, c'est question de législation, de loi. Le peuple français est contre ça, mais s'il veut insister, on ne peut pas grand-chose là-dedans.
Et à votre avis, est-ce que cette loi, elle va augmenter les inégalités entre les riches et les pauvres? C'était le sujet de votre chronique. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi par rapport aux inégalités?
c'est que ça pourrait, tout simplement. C'est pas sûr à 100%, mais ça pourrait.
D'accord. Et vous, qu'est-ce que vous verriez pour, si vous le souhaitez, baisser les inégalités? Qu'est-ce que vous pensez qui serait le mieux de faire?
De manifester autrement, simplement. De parler, tout simplement, de militer, des assemblées.
D'accord. Ouais, ben, je pense que c'est une belle conclusion, des chouettes conseils. Et ben, merci beaucoup, Philippe Charc.
Un grand merci à tous et au mois prochain.
L'émission est terminée. Au revoir. On se retrouve.
Rendez-vous le mois prochain.
Chrono.